Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut, c'est Hugo de Hugo Decrypt, bienvenue dans cette édition hors-série de Mashup, ça s'appelle Tech Up, et l'objectif, c'est de traiter de sujets à la croisée des enjeux de société et du numérique. C'est un stream mensuel en partenariat avec Orange, je vous laisse écouter tout ça, et puis n'oubliez pas donc, Mashup, c'est tous les mercredis à 20h sur Twitch, et chaque semaine en podcast, alors abonnez-vous pour ne rater aucune rediffusion. On va donc parler de cyberdéfense. La cyberdéfense, ça fait beaucoup parler en ce moment, notamment dans le cadre de ce conflit et de cette guerre en Ukraine avec la Russie. En effet, le 18 mars dernier, Anonymous avait lancé un site internet vitrine où étaient répertoriées les vidéos des caméras de surveillance russes piratées. Des messages informatifs d'ailleurs sur le conflit en Ukraine étaient incrustés sur la bande vidéo. C'était à ce moment-là un objectif de lutte contre la désinformation de la population russe concernant cette guerre en Ukraine pour soit sensibiliser, soit bien appeler éventuellement à l'engagement. Et c'est une action parmi tant d'autres et de divers acteurs qui existent aujourd'hui. On va voir ensemble que la question de la cyberdéfense, c'est un vaste sujet, très très vaste sujet. On va essayer d'en dessiner un petit peu les contours et les enjeux aujourd'hui au 21e siècle et notamment dans des situations comme on a en ce moment dans l'actualité. Et pour en parler, j'ai avec moi deux invités. Bonjour à tous les deux, déjà ça fait plaisir de vous recevoir.
Salut Hugo,
bonjour.
Bonsoir.
Première pour Twitch, pour toi c'est la première sur Twitch je crois.
Ouais, complètement.
Très bien.
Je découvre.
Et bah, ravi, j'espère que ça va te plaire.
Sûrement.
J'espère que ça va te plaire. Toi, t'es déjà venu sur Twitch 2-3 fois. On t'a vu chez Micode notamment.
Exactement, 2-3 fois.
Alors, pour vous présenter rapidement, Laurent Sellerier, tu es vice-président technologie et marketing chez Orange Cyberdéfense, habitué donc forcément des sujets de défense géopolitique ou de cybersécurité. En quelques mots d'ailleurs, est-ce que tu veux nous expliquer un peu ton métier au quotidien, en quoi il consiste ?
Mon métier au quotidien, c'est de protéger les entreprises, les administrations, mais aussi les associations, les hôpitaux contre les cyberattaques. Donc on les aide en mettant de la technologie, mais aussi des experts pour les protéger.
Donc on va essayer de comprendre en quoi, de quoi est-ce qu'on se protège et à quoi ça ressemble. On va voir tout ça dans quelques instants. Je précise, parce que du coup, on l'a dit, c'est une émission faite en collaboration avec Orange, que c'est une branche d'activité qui recrute aussi. Et peut-être,
bien sûr,
pourquoi pas chez
bien
Orange,
sûr.
L'occasion de le dire, on mettra des liens dans le chat pour ceux qui veulent en savoir plus sur notamment les formations qui sont possibles dans ce domaine-là. Merci en tout cas, Laurent, d'être là. Baptiste Robert, bonjour à toi aussi. Bienvenue du coup sur le plateau de Tech Up. Pour te présenter en quelques mots, tu es expert en cybersécurité, directeur du Predicta Lab. Tu te définis sur Twitter comme un hacker éthique. Qu'est-ce que ça veut dire ? En deux mots, on va en reparler après, mais un hacker éthique, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, l'idée, c'est qu'un hacker éthique, c'est quelqu'un qui va utiliser ses compétences dans le domaine du hacking pour justement trouver des failles de sécurité et prévenir les sociétés concernées. Alors, avec ou sans mandat, avec ou sans autorisation de la société, ça c'est une autre question, toujours avec l'ambition et la volonté de bien faire et de protéger les entreprises, de protéger les utilisateurs des entreprises concernées également, et avec le souci du détail technique d'être plus une solution qu'un problème.
Donc on va voir en détail tout ça dans quelques instants. N'hésitez pas dès maintenant, si vous avez des questions concernant ce sujet-là. Moi, j'ai envie de commencer avec une question un petit peu d'introduction pour bien comprendre. Qu'est-ce qui fait, Laurent, tu disais que Orange a travaillé à protéger un certain nombre de... On peut parler d'hôpitaux ou d'autres organismes. Se protéger de quoi ? Et de quoi est-ce qu'on doit se protéger aujourd'hui quand on parle de cyberattaque ou de cyberdéfense ?
Alors en fait, il y a quatre grands types d'attaques. Pour mettre les choses le plus clair possible. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle l'atteinte à l'image. C'est-à-dire, par exemple, vous avez votre compte qui est usurpé, vous avez votre marque quand vous êtes une entreprise qui est usurpée. Deuxième exemple, c'est tout ce qui est lié à la cybercriminalité. Donc, on va vous extorquer vos données, votre argent. Le troisième exemple, c'est l'espionnage. On va venir vous prendre vos secrets. Et puis le dernier, qui est le plus dangereux, c'est le sabotage. Grâce à l'informatique, aujourd'hui, on arrive à saboter des installations qui peuvent être extrêmement importantes. Ça peut être des installations électriques, ça peut être des installations dans les bâtiments.
Et pour bien comprendre, dans le cas d'un hôpital, par exemple, le risque pour un hôpital le plus important, c'est quoi ? Il me semble qu'il y a un an ou deux, il y avait eu des soupçons, même une attaque avérée contre des hôpitaux britanniques, notamment de la NHS. Que peut risquer un hôpital, très concrètement ?
Concrètement, il peut ne plus pouvoir fonctionner. Il y a un certain nombre d'attaques qui s'appellent les ransomware. Un ransomware, c'est un petit virus informatique qui va pénétrer le système informatique de l'hôpital et qui va rendre les données indisponibles. Donc, le médecin n'aura plus accès à le nom, aux constantes de santé de son patient, aux prescriptions qu'il a. Et donc, l'hôpital ne pourra plus fonctionner tant qu'il aura ce problème de ransomware.
Sur les menaces, ouais.
Et en complétant le propos qui est ici très bon, c'est il y a aussi une deuxième famille de ce qu'on appelle les wipers qui vont être là pour vraiment détruire et qui n'ont même pas volonté de gagner de l'argent, volonté de demander une rançon. Ils sont juste là pour tout détruire. Et dans ce cas-là, c'est encore pire. C'est-à-dire que vous avez vraiment zéro possibilité de retrouver votre donnée, de retrouver un système utilisable. Et on a vu ce type, on a vu beaucoup d'utilisation de virus de ce type-là, de wiper, en Ukraine notamment, pour préparer les différentes opérations militaires.
Il y a Tania qui demande, mais c'est déjà arrivé d'avoir un blocage d'un hôpital ou un blocage d'une telle gravité
Ah oui, malheureusement, ça arrive, et pas qu'une fois, ça arrive des dizaines de fois, même en France. Et là, les personnels soignants, ils sont obligés de ressortir les tableaux, les bloc-notes, et tout faire à la main. Donc ça arrive très, très fréquemment, parce que les hôpitaux sont très numérisés, en fait.
Je suis tombé l'autre jour sur une citation, une interview accordée au Monde, dans laquelle le ministre de la Transformation numérique de l'Ukraine déclarait « La cyberguerre durera jusqu'à ce que le dernier char russe quitte l'Ukraine ». Qu'est-ce que vous en pensez, Baptiste ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que si la guerre se termine de manière physique, elle se termine aussi en ligne, ou est-ce qu'elle continue cette guerre en ligne dans tous les cas et quoi qu'il se passe ?
Laurent l'a très bien dit au départ, en fait, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs buts dans cette cyberguerre. Il est déjà, même entre spécialistes, il est déjà compliqué de définir ce que c'est la cyberguerre. Ce n'est pas juste quand il y a la guerre physique, c'est un peu, en réalité, aujourd'hui, il y a un jeu global où tout le monde espionne tout le monde. Tout le monde veut chercher de l'information chez tout le monde. Et donc, aller chercher de l'information chez les concurrents, aller chercher de l'information dans des États qui soient alliés ou pas, c'est quelque chose qui se fait au quotidien, qui se fait de tout temps, et quelle que soit la situation entre les deux pays. Et là, on l'a vu, en fait, avant l'invasion en Ukraine notamment, on a vu des activations, en fait, d'implants, ce qu'on appelle des implants. Ça va être des groupes attaquants qui sont déjà dans les infrastructures d'entreprises. Et en fait, on a vu qu'il y avait des groupes de hackers qui avaient déjà hacké des infrastructures en Ukraine depuis bien longtemps, qui ont activé leur porte d'entrée pour tout détruire.
Qu'il y a des choses quasiment en veille, en attente,
ouais, dormantes, et qu'on active au moment où on en a besoin.
Et il y a un concept qui est un peu qui est pas assez répandu, en fait, dans l'esprit commun, qui est que, en fait, un bon hacker, c'est pas celui qui va être visible. Le bon hacker, c'est celui qui va être discret, qui va être capable de rester pendant des années et des années en train de dormir et regarder la donnée passer. Voilà, il va voir passer la donnée, et il va rester le plus longtemps possible sans se faire avoir, de manière à voir le maximum d'informations.
Et d'ailleurs, c'est une question qui revenait dans le chat, puisqu'on parlait d'un bon hacker. Tu t'es défini comme un hacker éthique. Certains demandaient dans le chat, qu'est-ce que ça veut dire en termes de choses que tu peux mettre en place ou que tu fais. Quelqu'un disait dans le chat, est-ce que ça veut dire pirater quelqu'un pour ensuite, non pas voler des données ou quoi, mais prévenir qu'il y a telle ou telle faille? Ça fait partie de...
Alors oui, des exemples, j'en ai beaucoup, en fait. Si vous tapez mon nom sur Google, malheureusement, vous allez voir plein de choses. J'ai trouvé des failles dans l'application du Premier ministre indien. Donc j'étais en relation avec son bureau directement pour prévenir. J'ai trouvé des failles dans l'application CHAP, l'application du gouvernement français de messagerie. Et l'idée était toujours de prévenir les personnes concernées. Et effectivement, on va parfois hacker sans avoir l'autorisation, ce qui est parfois pas légal en fonction du pays. Donc je ne conseille pas aux gens de le faire. Mais ensuite, vous allez voir les personnes concernées et leur donner la faille en question.
Et tu parlais de hacker éthique, c'est-à-dire qu'on a d'autres typologies d'hackers et même plus largement d'acteurs dans ce domaine-là. S'il fallait un peu les définir, on peut parler de hackers qui peuvent être du coup soit solitaires, soit davantage organisés. On parle souvent d'Anonymous qui veut, j'ai pas envie de dire tout et rien dire, mais c'est vrai que c'est à la fois, vu que c'est un groupe qui est anonyme, tout le monde peut s'en revendiquer, donc c'est assez particulier. Il y a les hackers en tout cas qui peuvent se mobiliser. Quels sont les autres grands acteurs de ce domaine-là aujourd'hui?
Je crois qu'effectivement, il y a qu'on appelle les activistes, hein, dont Anonymous, qui en général portent une cause. Après, il y a les groupes criminels, hein, qui, eux, veulent faire de l'argent. Et puis, il y a aussi des groupes para-étatiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas avec un uniforme, mais ils ont des liens très proches avec certains États. Et puis enfin, il y a les États eux-mêmes, hein, qui ont leur propre force de hacker pour soutenir leurs opérations, notamment les opérations de renseignement dont on parlait, hein, qui préexistent largement des conflits, mais aussi d'accompagner les opérations lorsqu'il y a une guerre. Et puis, en général, ils restent après.
Et c'est-à-dire, est-ce que la France a une armée, elle aussi, de hackers ou de gens qui seraient...
Oui, on a, la France a des capacités, et ça a été déclaré il y a quelques années maintenant, de manière ouverte, à des capacités offensives militaires dans l'espace numérique.
Et plus largement, c'est quelque chose, le fait pour les pays comme ça de s'armer d'une certaine façon contre ces menaces-là, ça remonte à quand? Est-ce que c'est dès le début d'Internet, l'État a fait « Ok, on voit qu'il y a quelque chose, il faut s'armer » Est-ce que c'est venu plus tardivement quand même dans les années qui ont suivi?
En fait, il faut reprendre la naissance d'Internet. Internet, ça a été créé au départ par des universitaires, mais ça très très vite été repris par des militaires. Et même le vocabulaire d'Internet en lui-même est parfois très très militaire. Et donc, dès le départ, on a vu ce potentiel-là, mais les États sont tellement gros, sont tellement importants, qu'il est très très difficile déjà de savoir ce qu'on a en face de soi. C'est aujourd'hui, encore aujourd'hui, on est incapable de définir ce que c'est la cyberguerre. C'est le cyberespace, il y a des thèses entières qui sont faites sur qu'est-ce que le cyberespace ? Est-ce que c'est la guerre sur le cyberespace ? On est tous à peu près d'accord, mais on ne sait pas trop le définir. On voit qu'il y a des choses, on essaie de les définir, on essaie de les caractériser, mais ça reste compliqué. Effectivement, la France a des capacités offensives, ça, il n'y a pas de doute, et on n'est absolument pas les seuls. Dans quelle mesure ? C'est plutôt bien de ne pas le savoir. C'est plutôt bien que la France reste, ne soit pas très publique là-dessus. Et après, on n'est pas les derniers. On n'est peut-être pas les premiers, mais on n'est pas les derniers.
Tu voulais compléter là-dessus sur ce sujet-là?
Oui, mais je crois qu'effectivement, l'objectif d'un État, c'est de protéger ses intérêts. Plus il met d'intérêts dans l'espace numérique, et plus il va devoir les protéger. C'est pour ça qu'il constitue une armée pour se défendre, et puis aussi pour éventuellement aller altérer les intérêts des autres. Donc voilà, les États ont investi beaucoup dans l'espace numérique, notamment parce que ça offre une certaine impunité. Comme le disait Baptiste, on peut aller investiguer, on va dire, au-delà des frontières, et ça sans avoir grand risque de se faire prendre. Et donc, c'est un jeu qui est assez tentant, ça ne coûte pas très très cher, finalement, par rapport à... Vous avez tous vu des séries, envoyer des espions, des avions et compagnie. Là, il suffit de quelques personnes un peu formées et vous arrivez à récupérer des informations de très grande valeur.
Et du coup, ça veut dire qu'il y a une forme de difficulté à repérer qui a été auteur de telle ou telle attaque. C'est des choses qui sont dures à observer.
L'attribution, en fait, on a tendance à dire que l'attribution, c'est un vrai sport dans notre domaine. C'est extrêmement compliqué.
La première chose, c'est d'agir pour telle chose.
On n'est pas des gens qui faisons beaucoup de sport, donc on essaie de s'en trouver. Mais en fait, et les acteurs, qu'ils soient étatiques ou autres, qui sont des acteurs assez développés, jouent avec ça. C'est-à-dire que pour savoir qui a fait quoi, on a tendance à comparer du code, à savoir, tiens, tel code avait été utilisé par telle personne. Du coup, il y a des chances que... Mais c'est souvent un faisceau de présomption. C'est souvent une probabilité de... Mais on n'est jamais sûr à 100%, ou c'est très très rare que... Ah oui, là, c'est sûr, c'est les Russes.
Ce qui permet aussi aux États, j'imagine, de se dédouaner en cas d'attaque ou de leur dire, non, c'est pas nous, vous n'avez pas de preuves.
C'est exactement ça.
Mais c'est pas nous.
Effectivement, on peut avoir des faisceaux techniques, mais même parfois, là, il faut se méfier, il peut y avoir des leurres. Ce n'est pas parce que vous retrouvez des caractères cyrilliques dans du code que c'est forcément des Russes. Ou des caractères chinois que c'est forcément des Chinois. Et donc, voilà, les États en jouent pour agir avec une certaine impunité.
Sur la question des différents États, il y a une question de Stereo Glitcher qui disait « Est-ce que c'est vrai que les Russes sont les meilleurs hackers ? Ils ont cette réputation. » C'est une question plus large. Aujourd'hui, quels pays sont les mieux armés ? Et en cas d'attaque et en cas de défense, mais lesquels sont les mieux armés aujourd'hui dans le monde ?
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut remettre un petit peu tout en ordre. C'est-à-dire que ce n'est pas une compétition. Il n'y a pas, il y a pas un classement avec les meilleurs.
Il
n'y a pas non plus un... Comme on peut avoir pour l'armée plus traditionnelle, disons, on sait quel pays
on
a le plus de
porte-avions, ses capacités.
De machin. Ce n'est pas le cas ici.
Par contre, ce qui est sûr, c'est que la Russie est un territoire où... qui est très propice aux hackers, qui a une certaine culture du hacking et qui favorise la formation de ces groupes-là, qui les même protège et qui les laisse travailler en paix. Et de fait, il y a une culture qui s'est développée, il y a des compétences qui se sont développées. Et effectivement, typiquement en reconnaissance faciale, les Russes sont extrêmement bons. Ils ont des développeurs qui sont extrêmement bons dans ce domaine-là. Parce qu'ils ont eu la culture qui va bien, ils ont eu le territoire qui va bien, ils ont eu les politiques autour qui vont bien. Et ça aide. À un moment donné, c'est un de nos enjeux en France aussi. Ça passe par l'éducation, les moyens, la politique. Et en fait, tout ça mis ensemble, ça fait qu'à la fin, oui, on a des gens qui sont plus que pas mauvais.
Ouais, et je crois que, alors, effectivement, il n'y a pas de classement officiel. Ouais. Hein. Néanmoins, je pense que les États-Unis, par leur capacité technologique,
budget,
sont probablement en tête de ce classement qui n'existe pas. Après, il y a un certain nombre d'États qui ont des bonnes capacités sans être bons partout. Par exemple, les Russes ou les Chinois, les Français. Par exemple, en France, on est très bons dans tout ce qui est cryptographie. Donc là, c'est une de nos forces qui nous permet de jouer à l'échelle mondiale.
La cryptographie, c'est quoi pour...
Alors, la cryptographie, c'est la capacité à masquer une information. C'est-à-dire qu'on va appliquer à une donnée un algorithme qui va rendre cette donnée illisible. Pour quelqu'un qui n'a pas la clé de déchiffrement. Et voilà. Après, il y a d'autres pays comme Israël, qui est effectivement très bon. Il y a Singapour. Mais voilà, il y a un petit club... qui n'est pas si nombreux que ça, je dirais une dizaine de pays. Et puis après, il y a un peu la troisième division, où les gens ont des lacunes pour pouvoir mener des opérations militaires cyber.
Et sur ces éléments de cyberdéfense ou de cyberattaque, il y a une question aussi sur la question de la légalité. C'est-à-dire que on a eu ces dernières années un certain nombre d'informations qui sont sorties. On peut parler évidemment des révélations de Snowden il y a quelques années sur les systèmes de renseignement de la part des Américains. Il y a c'est un exemple parmi tant d'autres de choses qui peuvent être mises en place par des États ou alors par d'autres acteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'échelle internationale, il y a une réglementation, un peu comme on pourrait avoir les conventions de Genève sur la question de l'utilisation des armes et des règles de guerre. Est-ce qu'il y a un équivalent des cyberattaques ou est-ce que c'est beaucoup plus flou sur ce qui est légal, illégal ? Est-ce qu'on a une notion de crime de guerre dans le cas de cyberattaques ? À quoi ça ressemble ?
Alors, en fait, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de code précis ou de loi au niveau du droit international sur l'espace numérique. Il y a le droit international, il existe, mais il a été créé avant le cyber, avant Internet. Et donc, il existe, mais il s'applique difficilement. Et à titre d'exemple, on peut considérer qu'une attaque cyber, c'est un acte de guerre ou pas. Voilà, il y a encore beaucoup de flou et d'interprétations possibles pour ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé dans le cadre du droit international. Aujourd'hui, la Cour de justice internationale n'a jamais été saisie par un État
sur un sujet
cyber parce que le droit n'est pas assez précis. C'est ta génération, Hugo, qui va devoir mettre ça en place, ce droit cyber.
C'est une question qui est même plus large, en fait, on parle beaucoup de cybersécurité là maintenant, mais en fait, sur le numérique au global, il y a eu, par exemple, beaucoup de demandes de pays un peu plus totalitaires qui ont demandé, par exemple, à WhatsApp de supprimer le chiffrement des conversations.
Donc, qui permet à, le chiffrement qui est aussi dispo sur un Telegram ou un Signal ou autre, de façon d'ailleurs plus renforcée, qui permet de faire en sorte que les États ou d'autres acteurs n'ont pas accès, en tout cas pas aussi facilement, à ce qui est dit sur ces plateformes.
Exactement. Et du coup, en fait, le WhatsApp a répondu, mais en fait, si je devais obéir aux lois de tous les pays, je pourrais pas, en fait. Je peux pas appliquer des lois différentes partout. Et donc, même pour le numérique au global, il n'y a pas vraiment de loi internationale qui s'applique, et donc encore moins pour la cybersécurité. Et avant d'en voir, à mon avis, il va se passer un petit peu de temps.
Y a souvent des choses qui sont mises en place par des acteurs numériques, et ensuite, la loi vient après pour tenter de...
Exactement, c'est toujours une course de la loi derrière la technologie. Donc, on essaye d'avoir des lois qui soient suffisamment précises, mais pas trop, pour pas être tout de suite obsolète dès qu'il y a un changement technologique. Ouais. Hein. Donc, c'est toute la difficulté du législateur, et notamment, en France, il y a une agence qui s'occupe de ça, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de la cybersécurité, et qui met en place des règlements, des lois, et ils sont toujours à essayer de fixer le curseur au bon endroit entre être précis et donc être pertinent, et être trop précis, et donc être obsolète dès qu'il y a un changement technologique. Donc c'est un vrai challenge qu'on a dans la tech.
Et c'est une question de temps aussi. En fait, il faut comprendre que le temps pour voter les lois n'est pas le même que le temps du cyberespace, qui n'est pas encore même le temps de l'administration. Et donc c'est vraiment, on ne prend pas tous la même période, le même temps pour faire, ces choses-là. Et donc de fait, il y a des désynchronisations qui se font, et avant que tout le monde soit raccord, en fait ça n'arrive quasiment jamais, pour ne pas dire jamais.
Il y a une question dans le chat assez intéressante de Mathieu qui dit, mais une question, je ne sais pas si elle a déjà été répondue, mais à quel moment parle-t-on de cyberattaque au niveau étatique? S'attaque-t-on aux infrastructures gouvernementales, à une part importante de la population? Je pense qu'il y a deux questions que ça pose. C'est la question de, est-ce que si un État se fait attaquer, il le dit, ou est-ce qu'il le garde pour lui, et en général, comment ça fonctionne là-dessus? Est-ce qu'on a des, entre guillemets, des éléments de réponse sur ça? Et la deuxième question, pardon, c'est d'un point de vue d'attaque contre des États ou des infrastructures étatiques, quels ont été, selon vous, les éléments les plus marquants que vous avez pu voir ces dernières années? Je sais qu'il y a souvent le cas de l'Iran qui revient souvent sur les infrastructures nucléaires, mais est-ce que vous voulez soit parler de lui ou d'autres? Peut-être la première question sur... Est-ce que les États en parlent dans le cas où ils font face à une attaque?
Eh bien, ça dépend. Dans certains cas, ils le révèlent publiquement et ils accusent, parce que ça leur sert de mettre la pression sur un État. Dans d'autres cas, ils le disent, mais de manière non publique. Ils convoquent l'ambassadeur, ils font passer des messages et en disant « Attention, je t'ai vu, ne recommence pas. Sinon, moi, j'ai des moyens de rétorsion sur toi. » Donc voilà, c'est vraiment l'attribution est un acte fondamentalement politique. Ouais. Ce n'est pas un acte technique.
Exactement, et c'est important de le préciser. En fait, la cybersécurité, ça va être très technique. On va être sur un secteur très technique. Mais se mêle à tout ça, en fait, ce secteur très technique va être un outil pour servir des enjeux géopolitiques, des enjeux nationaux, parfois des géopolitiques, politiques tout court. Et il n'y a pas de réponse simple. Effectivement, parfois on va le dire, parfois on ne va pas le dire. De la même façon qu'on parle des entités étatiques, mais les entreprises, c'est la même chose. Parfois elles le disent, parfois elles ne le disent pas. Et après, sur la deuxième question, sur les infrastructures, en fait, ce qu'on va chercher en tant que hacker, si on va chercher à cibler les infrastructures les plus critiques, si je veux vraiment faire mal à un pays, et comme on l'a vu en Ukraine, en fait, dans un premier temps, on va aller s'attaquer à tout ce qui est lié au gouvernement, donc directement aux organisations gouvernementales, et ensuite aux infrastructures critiques, donc l'électricité, l'eau, les centrales nucléaires, etc.
Et pour ceux qui veulent un contexte sur ce sujet-là, la question de Stuxnet, c'était ça le nom du virus qui avait été découvert en 2010, qui avait sévèrement perturbé le programme nucléaire iranien. Et donc, résultat, une partie des machines a été tombée en panne à ce moment-là. Ça avait mené à beaucoup de problèmes à l'époque sur le nucléaire iranien. On voit que ça peut s'attaquer à des éléments. Je crois qu'on parle d'organismes d'importance vitale. C'est ce genre des OIV.
Exactement. En France, il y en a à peu près 200. Alors, la liste est confidentielle, je ne pourrais pas vous le dire, mais enfin, on voit bien quand même les secteurs qu'a mentionné Baptiste, l'énergie, le transport et compagnie. Donc ça, c'est des secteurs qui sont particulièrement surveillés et qui ont des obligations de sécurité, en particulier de cybersécurité. Donc, ils sont obligés de prendre un certain nombre de mesures, de faire des audits, de mettre en place des systèmes de détection pour vérifier qu'il n'y a pas d'intrusion.
C'est là où on voit toute la difficulté de la chose et où c'est important de mettre de la nuance. C'est-à-dire qu'on a des organismes d'importance vitale qui sont vraiment très importants pour la France, qu'il faut protéger et qui ont besoin qu'on leur donne les moyens, qu'on les conseille également. Et l'État est vraiment là pour ça, pour leur dire, voilà, il faut faire comme ça, on va venir vous aider régulièrement, on va vérifier que vous êtes au niveau. Et si on voit quelque chose passer, ben on va aussi vous prévenir. Et c'est très important pour un État aussi d'accompagner ces grosses structures pour, en cas de pépin, ben d'être là et d'être au plus près.
Il y a une dernière petite question qui est assez intéressante, mais pour toi, Baptiste, mais je pense que tu vas pouvoir aussi rebondir là-dessus, parce que quelqu'un te demande qu'est-ce que tu as fait comme étude, quelqu'un a demandé master hacker, ou est-ce que tu t'es formé sur le tas ? Il y a une vraie question sur la formation, qu'est-ce qui nous amène à ce domaine-là en général, et je pense que Laurent, tu peux aussi répondre de ton côté, au sein de ton département, chez Orange,
sur laquelle ça ressemble. Beaucoup de temps passé sur l'ordinateur. J'ai commencé, en fait, j'ai une formation d'ingénieur je le connais tellement que télécom et réseau. Okay. Et c'est un métier que j'ai jamais fait. Et ensuite, j'ai fait vraiment développeur d'applications mobiles. Et je me suis intéressé à la sécurité. Ça a été mon point d'entrée dans la sécurité. Et petit à petit, en fait, je me suis vraiment formé sur le tas. Et ce qui est vraiment important de préciser, c'est que la sécurité, et c'est ce qui fait de notre secteur vraiment quelque chose d'extrêmement riche. Il y a des gens qui viennent de partout, avec des profils extrêmement différents. Il n'y a pas de voie royale. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait d'études. Moi, sur Twitter, j'ai des gens tous les jours qui m'envoient des messages, des jeunes en me disant quelles études faut faire. Il n'y a pas de voie royale. Travaillez, prenez une spécialité. La cybersécurité, ça ne veut rien dire. Il y a 1 milliard de métiers à l'intérieur. Prenez un métier, prenez une spécialité et travaillez. Et ensuite, ça viendra. Il y a pas de raison.
Laurent, là-dessus, la question de...
Ouais, moi, j'ai une petite histoire à vous raconter.
Okay.
On a chez Orange Cyberdéfense une employée qui, avant de nous rejoindre, était croupière dans les casinos, vous savez, qui surveillait les joueurs. Et elle aimait bien l'informatique. Elle nous a rejoints il y a quelques années. Et c'est super de la voir parce qu'elle nous apporte toute sa connaissance du jeu. Et donc, grâce à elle, on arrive à protéger des applications de jeu, à protéger des sites de jeu beaucoup plus efficacement, parce qu'elle connaît la mentalité des joueurs.
Donc, vous voyez, c'est une histoire. On peut être croupier et finir à travailler sur ces sujets de cyberdéfense. Merci beaucoup à tous les deux.